Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Guillaume Erner. Michel Cahen, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, on va parler du Mozambique. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle généralement pas du tout, notamment dans la presse française. Donc vous allez nous tirer d'un mauvais pas pour les enjeux internationaux. Mozambique, il y a depuis 2013 et même depuis 2015 des hostilités qui reprennent. Alors on va voir la logique des acteurs et puis peut-être aussi à un moment donné quel coût payé par la population. Je rappelle aussi vous êtes chercheur invité à l'Institut des sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Alors Mozambique, c'est une interface portugaise entre les colonies allemandes de l'époque en Afrique orientale et les colonies anglaises en Afrique australe. Le Mozambique, c'est 800 000 km². Et quand on regarde la carte, on voit tout de suite les divisions internes notables entre le littoral et l'intérieur. Le pays est d'une certaine façon coupé en deux par le fleuve Zambèze. Il y a des différences manifestes entre le nord, le centre et le sud. Et puis une capitale, vous allez peut-être en reparler, qui est totalement excentrée, qui est tout contre l'Afrique du Sud. Quelques repères aussi. 26 millions d'habitants, je prends les chiffres de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques chez nous, 26 millions d'habitants, presque 6 enfants par femme en âge de procréer, une espérance de vie très réduite et peut-être, alors sous toute réserve, 73 millions en 2050, ce qui paraît considérable, et une guerre civile, bien sûr, qui a traversé le pays de 1976 à 1992. Ces remarques d'ailleurs géographiques vous intéressent ou non ?
Oui, bien sûr, parce que le Mozambique, comme vous l'avez bien dit, c'est un morceau de terrain découpé sur le sud-est de l'Afrique, par les rivalités interimpérialistes, notamment entre l'Allemagne et l'Angleterre à la fin du 19e siècle. Et pour montrer l'hétérogénéité du pays, on peut donner un exemple. Il y a en gros 25 grands groupes ethno-linguistiques dans le pays, et 23 de ces 25 grands groupes continuent de l'autre côté de la frontière. La frontière coloniale a carrément coupé des peuples entiers, des nations africaines entières. Et donc, on a ce pays qui a une extraordinaire hétérogénéité, renforcée par le fait, comme vous l'avez bien dit, que la capitale actuelle est dans l'extrême sud, mais la vieille capitale historique de la vieille colonisation du 16e au 19e siècle était à l'île de Mozambique, juste en face des Comores. Et donc, toutes les vieilles élites luso-coloniales étaient dans le nord, et ce déplacement à l'extrême sud du pays à la fin de la capitale, à l'extrême sud du pays à la fin du 19e siècle, a complètement déstructurer, marginaliser les vieilles élites coloniales et créer une coupure énorme dans le pays entre ce qu'est, même pas le nord et le sud, mais ce qu'est la capitale et ce qu'est le reste du pays. Parmi tous les chiffres que vous avez donnés, d'ailleurs vous auriez pu citer un indice du PNUD, de l'Institut de Développement Humain, le Mozambique est, malgré des taux de croissance apparemment très bons ces dernières années, avec un ralentissement aujourd'hui, c'est toujours un des IDH, comme on dit, les plus faibles du monde.
Alors juste d'un mot, pourquoi est-ce qu'on avait déplacé à l'époque à la fin du 19e siècle, la capitale l'a décentrée complètement. Et puis d'autre part, juste, vous parliez des langues, ou des langues vernaculaires, je ne sais pas,
oui.
plus de 25, elles sont intercompréhensibles ou non ?
Alors, donc il y a deux questions. La première sur le déplacement de la capitale. Eh bien donc, le Mozambique, comme toute la colonisation portugaise, à la fin du 18e et surtout 19e, était en décadence complète. Il y a eu ensuite un vigoureux renouveau colonialiste de la part de la République portugaise, de la fin de la monarchie, de la République portugaise, puis de la dictature salazariste. Et donc, c'est en fait une décision de la Banque du Portugal de déplacer la capitale vers l'extrême sud parce que l'actuelle capitale est sur l'emplacement d'un formidable port naturel. Et ce port naturel allait être le débouché du chemin de fer qui amenait le charbon du Transvaal en Afrique du Sud, avec tout donc un trafic juteux pour la colonisation portugaise. Donc le Portugal a décidé de brancher sa colonie décadente sur le capitalisme en essor de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie à ce moment-là, mais ce qui a créé de nouvelles dépendances et de nouveaux déséquilibres dans le pays.
Pour les langues, justement, vernaculaires.
Alors, oui, il y a comme... Bon, ce sont, sauf le portugais, bien sûr, et quelques communautés indiennes, ce sont toutes des langues bantoues, donc une certaine intercompréhension. Surtout, il y a des grands groupes, si vous voulez. Par exemple, les trois langues principales du Sud sont parfaitement intercompréhensibles. Également, dans le Nord, si vous parlez l'Omwe ou Imakwa, c'est tout à fait intercompréhensible. Donc, les Mozambicains, même qui ne savent pas le portugais, n'ont pas de très grandes difficultés pour se déplacer, peut-être pas de l'extrême nord à l'extrême sud du pays, mais disons dans les régions voisines. ça n'a jamais posé de problème.
Alors, pourquoi est-ce que la violence semble reprendre? Il y a une guerre civile, donc 76-92, et qui a été très cruelle. On dit généralement 900 000 à 1 million de morts, ce qui paraît évidemment considérable, et de nombreuses personnes déplacées.
Oui, alors le 1 million de morts, bon, c'est un chiffre qui a toujours couru et que je considère aussi comme... comme raisonnable, ce n'est pas un million de morts en combat, c'est un million de morts dans une société complètement déstructurée et qui donc qui n'a plus de réserve. Et donc quand il y a des crues d'un fleuve ou une sécheresse, eh bien la société n'a plus de réserve pour tenir les coups durs et donc les gens meurent. Donc c'est l'ensemble des catastrophes occasionnées par la guerre civile qui a fait un million de morts. Alors aujourd'hui effectivement depuis 2013, mais surtout beaucoup plus récemment, on peut dire qu'effectivement malheureusement il y a une nouvelle situation de guerre civile qui n'est pas encore étendue à la totalité du pays. C'est principalement dans le centre, dans la haute Zambézie, ce bec du Mozambique qui rentre entre le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe, et puis dans certaines régions de Zambézie, la plus vieille région colonisée. Et dans certaines régions, on peut dire que l'intensité des combats aujourd'hui est de la même force qu'il l'était dans la première guerre civile de 76 à 92, comme vous l'avez dit.
Vous craignez pour la suite des événements ?
Ah ben bien sûr, je crains. Ça fait 2 ans que je dis attention, il y a une guerre civile qui peut reprendre au Mozambique. Si vous voulez, ce pays, comme je l'ai dit, est extrêmement hétérogène et extrêmement inégal. Or, la constitution politique du pays depuis 1975, quand le Frelimo, Front de Libération du Mozambique, le parti qui a mené la lutte contre les Portugais victorieusement, a pris le pouvoir, ils ont mis en place une constitution à l'époque dite marxiste-léniniste, extrêmement autoritaire, mais extrêmement homogénéisante, il disait unitaire, mais en réalité homogénéisante, qui ne reconnaissait absolument pas la diversité du pays, et qui considère aussi que le parti qui a pris le pouvoir, ce parti, c'est la nation, et donc l'opposition ne peut être formée que de gens extérieurs à la nation, manipulés par l'étranger. Et le système politique aujourd'hui même, avec le pluralisme instauré en 92, est un système où si un parti, donc en l'occurrence le Frelimo, a 51% des voix à l'échelle nationale, il va avoir non seulement le gouvernement, ce qui est normal, non seulement la majorité à l'Assemblée, ce qui est normal, mais la totalité des gouverneurs de province, la totalité des administrateurs de district, la totalité des directeurs de services, la totalité des directeurs de banque. Si vous voulez être infirmière, il faut avoir la carte du parti. Si vous voulez être professeur, il faut avoir la carte du parti. Donc, si vous voulez, c'est le système le système anglais extrême de the winner takes all, le vainqueur prend tout, ce qui fait que des gens dans des régions qui ont toujours voté pour l'opposition voient que le vote ne sert à rien puisque, le chef de poste, il est toujours du parti dominant contre lequel on a voté, les directeurs des services sont toujours de ce parti, etc., etc. Et dans un contexte également néo-patrimonialisme très lourd, où les gens se rendent bien compte que si on a la carte du parti au pouvoir, on vit mieux que si on est fidèle à l'opposition. Donc ça crée des situations d'exaspération, et quand j'avais été sur le terrain en 2014 pour suivre la campagne électorale, j'avais bien senti que dans le nord du pays notamment, il y a des masses de jeunes gens, notamment des garçons, très pauvres, qui n'ont absolument aucun espoir d'amélioration de leur situation sociale, malgré les nouvelles ressources minérales découvertes, le charbon, le gaz, etc., et qui étaient prêts à rentrer en guerre de nouveau. Ils étaient prêts à rentrer en guerre. Il y a également quelque chose de très important, c'est le passage des générations. Si la RENAMO, donc la Résistance Nationale du Mozambique, l'ancienne rébellion qui avait été soutenue par l'apartheid et qui aujourd'hui est un important parti, le principal parti de politique d'opposition, si la RENAMO avait repris les armes il y a 10-15 ans, elle aurait commis un suicide politique parce qu'alors il y avait encore des tas de gens qui avaient vécu la première guerre civile. Aujourd'hui, la majorité des Mozambicains sont nés après 1992.
Voilà, on va se quitter là. En tout cas, merci de cet éclairage très important. On le suivra, ce dossier du Mozambique. Donc, Michel Cahen, vous êtes directeur de recherche au CNRS.